Conversation avec un article, 10e épisode, déjà. Le principe. Un compte-rendu d'articles scientifiques récents publiés dans une revue en sciences humaines et sociales.
Aujourd'hui, je suis content de mon coup. Aujourd'hui, un travail paru en mai 2020 dans l'excellente revue New Media and Society. L'article a été écrit par Justine Humphrey, chercheuse et chargée de cours en culture numérique à l'Université de Sydney, et Chris Schoecher, enseignant-chercheur dans la même université et sur les mêmes thématiques. Leur article porte sur les assistants vocaux et notamment sur les enceintes dites intelligentes, connectées, les Siri, Alexia et autres Google Home. Bon, bah, je vois que mon Siri s'est déclenché. Les deux auteurs s'intéressent plus précisément aux voix utilisées par ces entreprises, à leur histoire, à leur personnalité et au marché qui les sous-tend. C'est un sujet qui m'intéresse bien, même si je n'ai pas d'enceinte connectée et que je n'utilise aucun assistant vocal, enfin à part là dans le cadre de l'article pour tester. Je me suis amusé à observer mon neveu et ma nièce Noël dernier en train de parler, si on peut dire, à ces enceintes ou à ces simulacres de conversation. J'ai pas pris de notes, donc c'est vraiment de mémoire et rapidement, mais j'avais été assez frappé de voir avec quelle rapidité l'assistant vocal avait été intégré dans leur quotidien, trônant dans la pièce centrale et faisant l'objet de jeux, de petites luttes, de complicité aussi entre nous. Ma petite nièce apprenant du grand, moi apprenant d'eux à commander, à avoir l'action de ma commande vocale sur l'enceinte. Dans ces toutes petites scènes, on a déjà plein de choses à analyser, l'apprentissage, le jeu, l'intégration d'un objet technique, les ajustements corporels et sociaux, les interactions, voire même une forme de magie qui cache le tour de passe-passe économique, marketing et technique. En fait, nous domestiquons la machine autant qu'elle nous domestique, puisqu'elle nous suggère de nouveaux rituels d'interaction que nous intégrons dans notre quotidien ou que nous réactualisons avec un robot dans une double énonciation. Exemple de mon neveu qui dit à Google Home « Peux-tu mettre Spotify s'il te plaît ?» parce qu'il se sait écouter par des adultes et qu'il sait devoir faire preuve de politesse. Il y a donc tout un travail de la part des membres d'une famille pour faire exister l'objet technique comme assistant vocal. C'est une sorte de performance collective. Bon, j'avais pas pu se creuser la question, donc je suis content d'être tombé sur cet article qui complète des travaux déjà nombreux et importants sur le sujet. Je vous mettrai quelques éléments en bibliographie. Je reviens à l'article. Les enceintes connectées, d'abord, c'est un marché énorme. En 2018, 200 millions de foyers en avaient et en 2019, 30% de la population australienne en était équipée. Je rappelle que les deux auteurs qui donnent ces chiffres sont australiens, australiennes. 22 milliards et 16 milliards de dollars ont été dépensés respectivement par Amazon et Google pour la R&D en 2017, avec une part importante dédiée à l'assistante vocale. C'est presque autant que l'investissement de la recherche publique en France. Alors deux mots peut-être avant d'exposer les résultats des deux auteurs. C'est quoi un assistant vocal et une enceinte connectée? Eh bien, ce sont de petites machines, soit intégrées directement à un téléphone portable par exemple, c'est le Siri d'Apple, soit ce sont des enceintes qu'on peut acheter aujourd'hui à peu près n'importe où et qui ont l'allure d'un objet qu'on connaît déjà, ce qui facilite leur intégration dans l'espace domestique. Ces enceintes, ces machines peuvent jouer de la musique, faire des recherches sur Internet, donner l'heure, indiquer la météo, allumer la lumière si un système électrique est relié, d'où l'appellation assistant vocal. Alors pourquoi la voix a été choisie pour commander à l'espace domestique ? Parce que c'est la forme, ou ce serait la forme, la plus naturelle de la communication humaine, selon les deux auteurs. Cette modalité expressive fait d'ailleurs un retour important et remarqué à une époque qui serait encore dominée par l'écrit et la culture imprimée. Comme avec la télévision, on a affaire avec les enceintes connectées à ce qu'un grand spécialiste de l'oralité et de l'écriture, cité dans l'article d'ailleurs, Walter Hong, on aurait pu citer également Zumthor, appelle une oralité secondaire, c'est-à-dire que des caractéristiques de la culture orale sont encodées ou travaillées par un média qui la fait exister autrement. C'est le cas des présentateurs tristes des journaux aujourd'hui qui scandent un texte dans une sorte de communion ou de rite qui rappelle des pratiques plus anciennes. Il semblerait donc y avoir une mémoire des formes culturelles qui circulent, qui se transmettent, qui se chargent de nouvelles propriétés parce qu'elles doivent faire face à de nouveaux enjeux sociaux ou économiques, entre autres. Dans le cas des enceintes connectées et des assistants vocaux, les deux auteurs situent bien leurs enjeux et leurs problématiques. Il s'agit d'abord d'incarner une voix qui puisse s'intégrer alors qu'elle est étrangère et qu'elle doit pouvoir s'adresser au plus grand nombre pour des raisons notamment économiques. En Australie, un assistant vocal comme Siri parle avec un accent de la classe moyenne australienne, la plus importante, pour se fondre dans l'espace domestique. Il y a donc des enjeux de marché ici. Il s'agit ensuite d'éviter les impairs sexistes, racistes, sans être excluant pour autant en incarnant qu'un type de classe sociale ou qu'un genre. La solution trouvée par les ingénieurs, des hommes essentiellement, tient compte de tous ces enjeux. Les voix généralement utilisées sont ou se veulent désincarnées, dépourvues de qualités émotives, mais malgré cela, les voix féminines dans l'ensemble ont des caractéristiques stéréotypées. Elles se présentent comme des gardiennes du foyer dans le but de rassurer les consommateurs. Je vous renvoie ici au quatrième podcast que j'avais fait sur les poupées connectées. Malgré quelques précautions, les concepteurs commettent des erreurs, d'autant plus graves qu'elles leur sont inaperçues du fait de leur expérience genrée. À une époque, nous apprennent les deux auteurs, Siri répondait « Je rougirais si je pouvais » à l'insulte suivante « Siri, tu es une garce ». C'est tout l'objet de l'article, montrer comment ces voix machiniques, robotiques qui ont fait l'objet de critiques et de méfiance tout au long de l'histoire s'intègrent aujourd'hui progressivement et sans trop de résistance à notre paysage domestique. Pour le dire autrement, si Alexia, Siri et Google Home sont aujourd'hui possibles, c'est parce que ces technologies vocales héritent d'une longue histoire des formes sonores et d'une cohabitation progressive avec les robots. Les deux auteurs distinguent grosso modo trois périodes. D'abord, les machines parlantes, c'est une vieille histoire qui remonte sans doute au XVIIIe siècle avec la machine de l'inventeur hongrois Kempelen qui pouvait prononcer des mots et des courtes phrases. On le sait peut-être moins, et les deux auteurs n'en parlent pas, mais Kempelen a aussi inventé le turc mécanique, une machine qui pouvait jouer aux échecs, et qui en fait était actionnée par un humain caché en dessous de la machine, ce qu'ignorait l'adversaire de celle-ci. Il y a peut-être un lien intéressant à faire ici entre ces deux inventions, je pose ça là. Je reviens à l'article qui fait un saut temporel après avoir mentionné en introduction le phonographe, qui permit dès le 19e siècle d'enregistrer des voix. Dans les années 30, les ingénieurs de Bell mettent au point Vauder, un premier essai de synthétisation de la voix humaine. Exemple avec une archive trouvée sur YouTube, Vauder 1939, Early Speech Synthesizer. Comme on peut l'entendre, mal, je ne suis pas hyper bon en montage encore. Comme on peut l'entendre ici, donc les premiers synthétiseurs électroniques utilisaient la prosodie, c'est-à-dire les variations de rythme et de hauteur de la voix, en l'associant à une technique instrumentale et vocale, le staccato, qui consiste à multiplier sur des courtes séquences des notes hachées et soutenues. Exemple avec le robot Electro présenté en 1939 à l'Exposition universelle de New York.
Ladies and gentlemen, I'll be very glad to tell my story. I am a smart fellow, as I have a very fine brain.
On entend bien ici le staccato, c'est-à-dire ces notes hachées et soutenues par opposition au legato, ces notes beaucoup plus longues. Selon les deux auteurs, les ordinateurs conçus par Bell Labs dans les années 60 utilisaient les mêmes techniques, voix masculine, synthétisation et staccato, techniques qui ont servi de base au discours médiatique qui allait donner à la voix masculine une autorité et qu'on allait retrouver ensuite dans les films. Parallèlement, s'est développée dans le cinéma justement et les séries plus tard toute une iconographie ou un imaginaire des robots, comme on dit aujourd'hui, comme l'autre de l'humain. Ils ont en cela hérité du travail des ingénieurs et très certainement des mythes archaïques du golem et de Frankenstein qui sont toujours cités quand on doit évoquer les relations entre l'homme et le robot. Les auteurs identifient plusieurs transitions et passages tout au long du XXe siècle. Les machines robotiques apparaissent d'abord comme menaçantes. Elles ne sont en cela, et à mon sens, que la réactualisation du vieux mythe platonicien qui fait de la science, de la technologie, de l'hybris, c'est-à-dire de la démesure, un danger dont il faudrait se prémunir. Dans le Colossus of New York de 1958 ou dans l'Odyssée de l'espace de 1968, les robots ou les intelligences machiniques apparaissent comme dysfonctionnelles, trompeuses, voire dangereuses. C'est aussi le cas dans le célèbre Métropolis de Fritz Lang de 1927, un film qui n'est curieusement pas cité dans l'article. C'est aussi la première fois, dans Forbidden Planet notamment, en 1956, que la musique synthétique est utilisée. Les versions féminines des robots sont tout aussi menaçantes et incarnent souvent des figures de mères super protectrices, ambiguës, voire dominatrices. On a ici tout le stéréotype. C'est par exemple le cas dans iRobot ou dans le film de Disney de 1999, Smart House, où une intelligence domestique incarnée par une entité féminine finit par régir toute la famille. Cette représentation menaçante coexiste encore aujourd'hui avec une autre représentation, celle qui fait des robots de super intelligence inadaptée socialement. Généralement, ils se déplacent de manière saccadée, non coordonnée, sont maladroits. Le cas le plus célèbre étant C-3PO dans Star Wars, ce qui n'empêche pas de l'humour. C'est le fameux « I'll be back » de Terminator qui permet à la machine d'endosser de nouveaux rôles. Elle rentre ici, montre les deux auteurs, dans la scène, dans le théâtre. Les machines incarnent des personas, des personnages. Ils portent, dans ce cadre, des masques. C'est le cas dans la série Westworld, qui identifie les deux auteurs, où les robots jouent des rôles dans un parc à thème où des riches viennent assouvir leurs fantasmes et leurs pires sévices sur eux. Mais dans les coulisses, réparées par les scénaristes et les programmeurs, les robots révèlent d'autres pans de leur personnalité. Le robot intègre progressivement ses facettes jusqu'à devenir historiquement plus complexe avec Blade Runner en 1982 ou dans une scène finale, un réplicant, qui sont des robots difficiles à distinguer des humains, arrête de combattre le personnage principal et le sauve même. Ici, ce sont les frontières entre l'homme et la machine qui sont explorées et qu'on trouvait déjà travaillées dans une œuvre comme Pinocchio. Au XXIe siècle, les robots sont plus psychologiques dans la série Humans, de 2015, par exemple, à mesure qu'ils gagnent en humanité, leur voix se module, gagne en richesse de ton, en prosodie. Pareil dans la série Real Humans, que ne mentionnent pas les deux auteurs et que j'avais adoré pour la complexité des robots qui découvrent la religion, les émotions, le crime et qui nous renvoient à nous-mêmes, hein, ils ont une sorte de fonction heuristique. C'est le cas également dans une moindre mesure dans Toy Story et Wall-E de Disney, qui explore des relations plus affectives avec les robots. C'est peut-être la raison pour laquelle, même s'il n'y a pas de déterminisme causal ou médiatique, je le répète souvent, que les robots sont acceptés dans des tâches de soins aujourd'hui. Je pense à Rumor 2, utilisé avec des enfants en situation de handicap, ou du robot Paro pour les personnes âgées. Mais demeure cette ambiguïté qu'on retrouve constamment dans la presse et le cinéma. Les robots menaçants de Matrix côtoient ceux de Toy Story, de Transformers, de Pacific Rim ou d'Avengers, qui peuvent être plus nuancés, qui peuvent s'opposer, qui peuvent incarner les deux tendances dans une dialectique spectaculaire qu'adorent les industries culturelles. À l'inverse d'ailleurs des films de Miyazaki. Je reviens à l'article. Selon les deux auteurs, les voix des enceintes et assistants vocaux héritent de cette histoire qui nous est contemporaine. La plupart du temps, ce sont des voix d'actrices féminines qui sont utilisées, celle de Jennifer Lee Taylor pour la sortie de Cortana sur Windows 2014, la voix de Suzanne Bennett en 2010 lors de l'introduction de l'iPhone. Le but est de s'éloigner des associations négatives des voix synthétisées en recourant à des modalités riches et en se rapprochant de la voix naturelle. Ce qui indique un changement de paradigme, on a manifestement moins besoin de désigner le robot comme un autre. On lui demande plutôt aujourd'hui de se fondre dans l'espace domestique, familial, régional. Google, par exemple, connaît l'argot australien et utilise l'humour. À la question « Es-tu Skynet de Terminator ?», Google Home répond « Je suis content de ne pas l'être. Skynet est plus axé sur l'extermination que sur l'utilité. Il ferait un très mauvais assistant. » On voit ici que l'humour est un marqueur de la mémoire et des représentations négatives associées aux robots. Pour compléter et travailler leur tableau historique, les deux auteurs convoquent plusieurs concepts. Celui de modalité d'abord, emprunté au linguiste hongrois Théo van Lummen, qui a prêté une attention au statut, à l'autorité, à la valeur de vérité d'un énoncé, ce qui est en passant assez proche de la notion de proposition en philosophie analytique. Dans notre cas, il s'agit ici de comprendre quelle est la valeur de vérité, quel est le degré d'authenticité et les moyens utilisés pour y parvenir dans la fabrication des voix de synthèse. Autrement dit, dans quelle mesure font-elles vraies ? Alors les deux auteurs s'y penchent à plusieurs reprises, montrent les passages des voix masculines aux voix féminines, les hauteurs de ton, mais le cadre général de la notion de modalité, qui est complexe, et les marqueurs qu'ils proposent, n'est pas convoqué, ou pas suffisamment. Autre concept mobilisé, celui d'oralité machinique, repris à Félix Guattari, le comparse de Gilles Deleuze. C'est un concept critique qui désigne un régime de pouvoir basé sur l'interaction vocale. Déjà en 1995, Guattari écrivait « C'est par la parole que sera initié le dialogue avec les machines ». Les deux auteurs y voient un instrument de séduction, sans doute comparable au chant des sirènes, auquel Blanchot a consacré de belles pages. La voix, elle tire, elle favorise la familiarisation avec de nouvelles technologies. C'est d'une certaine manière un instrument de prédomestication, de configuration. En étant dépolitisé, en se voulant transparente, en ayant une modalité expressive élevée, en répondant aux sollicitations de l'usager, l'assistant vocal, grâce à la voix et aux enceintes, assure sa place dans le foyer. Or, cette voix et ses assistants vocaux sont imbriqués dans des écologies médiatiques dominées par des entreprises capitalistes, ce qui donne un éclairage tout à fait différent aux enjeux de cette introduction et de cette familiarisation. Dernier concept mobilisé, dernière notion travaillée que je trouve peut-être la plus intéressante et la plus prometteuse, l'invocation. Pour faire fonctionner un assistant vocal, vous devez l'invoquer à partir d'une formule scriptée. Alors là, il va s'allumer, dit Siri dans le cas de l'iPhone. Donc voilà, il s'est allumé. Les deux auteurs y voient le rappel d'une ancienne forme, l'invocation à la muse, qui est un topos de la littérature antique, un lieu commun qu'on retrouve partout. Exemple avec l'Odyssée d'Homère dans la traduction du poète Philippe Jacotet, qui date de 1955. Ô muse, conte-moi l'aventure de l'inventif, celui qui pilla Troie, qui pendant des années erra, voyant beaucoup de villes, découvrant beaucoup d'usages, souffrant beaucoup d'angoisse dans son âme sur la mer, pour défendre sa vie et le retour de ses marins. Bon, déjà, c'est magnifique, c'est beau. Et pour revenir à Siri et consorts, ses assistants répondent aux appels des usagers, comme la muse répondait aux appels du poète. Mais ces invocations machiniques doivent ici obéir à une forme structurée, contraignante dans la communication. À plusieurs reprises, si vous ne la respectez pas, vous êtes gentiment recadré par l'assistant qui ne comprend pas, qui vous demande de reformuler. Ces recadrages, ces excuses ont bien été documentés par les philosophes du langage, comme Austin, que citent les deux auteurs, qui en font le ferment, le ciment de la vie sociale, qui tient grâce à nos excuses, à nos toutes petites réparations quotidiennes, souvent inaperçues mais essentielles. Mais ici, la réparation est paradoxalement excluante. Les jeunes enfants, les personnes qui ont des troubles de la parole ou des personnes qui ont un accent non reconnu peuvent être mises de côté. Autrement dit, il y a un risque de reproduction de préjugés ou de conformité sociale. On a affaire ici à ce que les auteurs identifient comme un soft power, qu'on avait également vu dans le quatrième podcast sur les Barbies connectées, ces petites machines avec l'apprentissage et les actes d'invocation domestique avant de dresser l'individu. Ce sont des formes d'orthopraxie qui passent par un moyen de séduction, l'invocation, qui se veut un acte magique commandé par la parole. Alors je m'arrêterai là, le podcast est déjà beaucoup trop long, mais je m'arrêterai en faisant quelques remarques ou en pointant quelques limites, même si j'ai apprécié dans l'ensemble l'article qui m'a appris plein de choses. D'abord, première limite, le recours à l'histoire. Les deux auteurs se revendiquent de l'histoire culturelle sans être pour autant historiens, et c'est pas grave, mais sans véritablement suivre non plus leurs recommandations historiographiques. Or, c'est un vrai boulot, et très complexe, de montrer les passages et les discontinuités d'une époque à une autre, c'est vraiment casse-gueule comme travail. Ici, j'ai plutôt eu l'impression qu'on présentait une série de films en me demandant de considérer, du fait de leur juxtaposition, qu'ils étaient reliés les uns aux autres. C'est souvent un manque que j'observe dans les travaux en sciences humaines et sociales qui recourent à l'histoire sans se doter toujours d'un modèle méthodologique ou épistémologique, et c'est pas grave encore une fois, et c'est pas toujours nécessaire de toute manière, notamment quand c'est pas l'objet de votre travail ou que vous devez faire qu'une petite contextualisation historique, on va pas mobiliser l'artillerie lourde. Mais dans ce cas-là, ça me semblait fondamental. Je trouve que le cas théorique de l'archéologie des savoirs de Foucault, qui est connu et ultra connu, aurait sans doute été approprié pour montrer comment apparaît, comment se stabilise, comment circule, comment se transmet une forme culturelle qui bénéficie d'ailleurs de l'appui de toute une écologie médiatique. Ce qu'indiquent les deux auteurs lorsqu'ils affirment que le vaudeur, ce premier synthétiseur vocal, a servi de base journalistique pour décrire notre relation contemporaine avec les robots. D'un point de vue sonore en tout cas. Deuxièmement, on a affaire ici quand même à des logiques intermédial. Plusieurs médias convergent et se répondent dans une nouvelle œuvre indéterminée. C'est tout l'intérêt et l'enjeu de l'intermédialité. C'est de montrer comment une nouvelle forme artistique émerge de la réunion d'autres formes. Et cette nouvelle forme va assurer de nouvelles circulations, une nouvelle pérennité à des formes anciennes qui se transforment, comme on peut le voir, de manière permanente. Si je prends l'exemple de Forbidden Planet de 1956, que citent les deux auteurs, on sait que le film s'inspire très explicitement de la tempête de Shakespeare et convoque des figures de la mythologie grecque. À son tour, l'œuvre, à travers son robot, est reprise dans le jeu vidéo Fallout de 2008. On a donc affaire à des œuvres syncrétiques, à des chimères, pour reprendre le concept d'un chercheur en sciences de l'information et de la communication, Yves Jeanneret, c'est-à-dire que des formes hétéroclites sont associées pour maximiser une circulation à plus large échelle. C'est d'ailleurs le cas de tous les films cités, qui puisent dans la science-fiction de Philip K. Dick ou d'Asimov, pour citer les plus connus. Ces œuvres sont souvent réduites à quelques marqueurs, à quelques formules qui ont réussi, à quelques éléments remarquables qui sont progressivement décités, pour utiliser une formule du philosophe analytique Quine, des cités qui deviennent des éléments d'une culture plus ou moins partagée et oubliée. Infraordinaire. Troisièmement, et c'est assez évident ici, l'oralité à laquelle on a affaire est scripturale. C'est une oralité écrite, c'est un gramophone, pour utiliser un terme de Derrida, comme c'est souvent le cas en littérature, à la différence près que l'oralité machinique anticipe ici des interactions qui la font fonctionner et qui sont en retour traitées informatiquement, pour ne pas dire standardisées, si bien que nous n'y avons plus accès. Ces voix enregistrées ne sont pas répétables, on ne peut pas les réécouter, on ne peut pas s'en souvenir. Elles ne peuvent donc pas nous hanter. Qu'est-ce donc une trace qui ne peut pas nous hanter ? Y répondre permettrait sans doute de préciser les caractéristiques de cette oralité machinique. Dernier point, je m'arrêterai vraiment là, en revenant sur ce beau concept, l'invocation à la muse. Pour mener un regard critique sur les oralités machiniques, il faut, à mon avis, se rappeler la fonction de l'invocation à la muse chez les Grecs, et notamment dans l'Odyssée. L'invocation n'est pas qu'une convention rituelle, qu'un topos, qu'un lieu commun. C'est la garantie d'une création poétique originale accordée par la muse, qui donne paradoxalement les moyens au poète d'échapper à son contrôle. La question pour moi est donc de savoir quel type d'oralité nous voulons et comment retrouver ce que Wittgenstein, parlant de la voix, appelait un espace troué, un espace qui s'échappe, qui fuit, qui nous échappe. Comment donc créer les conditions de l'échappement, de l'intervalle, du blanc ? Comment créer des ritournelles, c'est-à-dire de petites chansons entêtantes qui fabriquent de l'espace, comme savent le faire les enfants, qui domestiquent un lieu nouveau en faisant résonner la voix. Je crois que c'est cet espace que recherchent, que c'est ce trou qu'agrandissent, que ce sont ces ritournelles qu'inventent les artistes et les auteurs du web, que nous serions bien avisés d'écouter.